Radio Campus 88.3.
En vous écoutant, j'avoue que j'ai été profondément touché. Je tiens à vous dire ma grande émotion en vous applaudissant très fort.
Radio Campus Orléans 88.3.
Ah, c'est vraiment bête qu'on ne capte pas.
Bonjour Pierre-Henri Castel.
Bonjour.
Que se passe-t-il ici au juste? Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres, de toutes les disciplines, sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues de créateurs sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotat à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire.
Une, deux, bonsoir, car, et c'est Radio Campus et Orléans, c'est l'émission du fictionnaire. Carl, il semblerait que nous ignorons, du moins en France, et que tous ceux qui sont appelés aux urnes, qu'il y ait en cours une catastrophe bioclimatique. C'est assez curieux, c'est assez étonnant, ça ne cesse de m'effrayer. Il est temps ce soir d'en parler, mais par des moyens détournés. Non pas de l'affronter de face, non pas de chercher des solutions, mais peut-être d'essayer de tenter de comprendre ce moment actuel de cette catastrophe bioclimatique par deux moyens. Dans la deuxième partie de cette émission, il y aura une interview croisée avec Bertrand Meust et Pierre Lagrange. Et nous parlerons de cette catastrophe à partir des phénomènes étranges qu'ils étudient, et notamment à partir du phénomène OVNI. Et nous verrons comment nous pourrons relier la question de la figure de l'extraterrestre et celle du terrestre. Mais nous allons commencer par Pierre-Henri Castel. Pierre-Henri Castel, c'est un philosophe, c'est un historien des sciences et plus particulièrement de des disciplines de la psychologie, et c'est aussi un psychanalyste. Il s'est fait immensément connaître par deux volumes, Obsession et contrainte intérieure de l'Antiquité à Freud et Obsession et contrainte intérieure de la psychanalyse aux neurosciences, donc deux gros volumes. C'était paru aux éditions Ithac en 2011 et 2012. On l'a interviewé à cette époque-là pour ces deux livres-là. Il est interrogé là pour un petit essai, Le mal qui vient, essai hâtif sur la fin des temps. Vous comprenez donc bien la comparaison avec la catastrophe bioclimatique. Mais ce n'est pas tant un livre sur l'écologie et la fin des temps, mais un essai sur le mal. Le mal en tant que production de Sade, par exemple, pour la littérature, mais aussi le mal en tant que qu'est-ce qui se passe dans notre psychologie individuelle et collective quand on fait le mal. Eh bien, c'est de cela dont nous allons parler avec Pierre-Henri Castel, tout de suite, immédiatement, juste après, bien entendu, d'un morceau de musique bien aimé. Carl, qu'allons-nous écouter ?
Eh bien, ce soir, on écoute un Robert Wyatt, un album à côté duquel j'étais passé, qui est sorti il y a peut-être 4 ans, un peu plus, attendez, je ne vois rien. Non, beaucoup plus en fait, 2009. Oh, quelle horreur. Donc j'étais très en retard. C'est un... Alors Robert Wyatt, on le présente peut-être pas trop vite, si, ou allez, leader de Soft Machine, peut-être pas leader, mais il en a fait partie pendant un moment. Après, il est parti pour créer Matching Mall, et puis il a poursuivi une carrière solo incroyable, qu'on vous invite à écouter. Et cet album, en fait, se place un peu comme une expérimentation. Il a passé 4 jours en 81 en Italie, à Rome précisément, dans une radio pour créer, en fait, dans un mode de création, peut-être pas radiophonique, mais pas loin, quoi. Il y a des bandes, il y a des instruments, alors il est batteur, mais il y a des percussions, des claviers, des guitares, plein de choses, et c'est vraiment chouette comme tout. Très expérimental, et on va écouter un morceau peut-être moins expérimental qui s'appelle Born Again Crétine. Donc voilà, je suis né à nouveau crétin. Et c'est sur Radio Campus.
L'émission du fictionnaire.
Chez vous, nous parlons de votre texte « Le mal qui vient » et c'est hâtif sur la fin des temps. J'aimerais que nous commencions cet entretien sur le statut de votre texte. Vous écrivez assurément « Cet essai a une dimension performative. Il ne dit pas simplement quelque chose, il fait aussi quelque chose en le disant et en le disant ainsi. »
Voilà, vous voyez, assez embarrassé parce qu'en fait, la propre du performatif, c'est qu'il faut que les choses se passent actuellement. Et là, on parle d'un texte qui a 6 ans. Et donc, c'est un peu difficile pour moi même de resituer exactement ce que je voulais faire à l'époque. En fait, ce que je voulais faire à l'époque a assez peu de rapport avec la façon dont le texte a été reçu. À la fois très bien et très mal, enfin de toute façon pour des textes de sciences humaines, c'est toujours dans des proportions relatives. Mais bon, alors au départ, c'était parce que je voulais faire quelque chose sur qui prolonge le travail que j'avais fait, qui était un travail de philosophie analytique extrêmement scolastique, précis, sur la question de la perversion. Et sur la question du mal. Bon. Et donc, en fait, c'est beaucoup moins un texte sur la crise écologique, la fin des temps, etc., qu'un texte qui réfléchit sur ou qui prend appui sur l'idée de fin des temps liée à la crise écologique et à ses conséquences politiques pour problématiser la question du mal. Donc le statut du texte lui-même dans ma tête, c'était vraiment un texte sur le mal et pas un texte sur la crise écologique. Et là, il a rencontré, pour autant que je puisse juger, une réception assez équivoque. C'est-à-dire que les spécialistes de la crise écologique qui ont lu le texte, que ce soit Dominique Bourg ou des gens comme ça, ou Fressoz, et ça, ont trouvé le texte absurde ou ridicule, voire choquant. Donc ils l'ont absolument pas aimé du tout. Hein. La noirceur du texte leur a paru complètement décalée par rapport à ce qui était à l'époque la perception parce que ça évolue aussi à grande vitesse, hein, la perception de cette crise écologique et de ses conséquences catastrophiques. Donc soit ça a été marqué par une forme de silence gêné ou de qu'est-ce que c'est que ce truc absurde qui est grandiloquent et canularesque, hein, puisqu'il y a une dimension de canular sur laquelle je vais revenir, qui les ont beaucoup choqués. Et puis les gens qui s'intéressent au mal n'ont pas fait la connexion avec le travail de philosophie morale sur la question du mal. Et donc il y a une réception qui a été relativement hostile, hein, à ce texte. Et puis en même temps, c'est un texte qui a connu une diffusion tout à fait inespérée. En fait, très rapidement, ça s'est extrêmement bien vendu. Je m'ai vendu autant, je crois qu'il y en avait plusieurs milliers d'exemplaires qui sont partis très 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 très, très rapidement. Plein de gens ont attrapé en quelque sorte le côté catastrophique ou catastrophiste du livre. En entrant dans la logique du canular, c'est-à-dire en fait on ne peut pas très bien savoir si c'est un texte qui dit des choses très sérieuses avec une argumentation de type philosophique ou si l'argumentation de type philosophique, parce qu'elle est pleine de paradoxes, en fait est une non-argumentation, une espèce de truc qui est un petit peu grotesque et un peu un truc qui est vraiment, on sait pas jusqu'à quel point je suis sérieux. Alors comme dans tout bon canular, j'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse jamais savoir exactement si c'est un canular ou si c'est complètement sérieux, parce que sinon c'est pas un canular si on peut le déterminer, et des gens qui ont apprécié cette chose là mais alors par exemple, vous voyez, bah, le texte a été traduit, les droits ont été achetés, et alors il a été traduit en italien. En italien, il a eu un certain succès, hein, d'ailleurs. Mais d'après ce que j'ai appris, les Britanniques qui voulaient acheter les droits se sont écharpés sur la question de savoir si c'était un texte qu'il fallait publier ou pas. Finalement, ça devait être publié chez une assez célèbre maison d'édition qui n'a pas donné suite. Et ça a donné lieu à un assez vif conflit entre les gens qui disaient... il faut publier absolument ce truc-là, et puis de dire que c'est vraiment, c'était aberrant et que c'était un truc qui n'avait aucune espèce de sens, en particulier, je pense, aussi pour un public anglo-saxon. Ce qui fait la dimension du canular, hein, dans ce texte, hein, c'était à l'époque le grand succès. Enfin, le grand succès, oui, un grand succès, beaucoup plus grand que celui de ce petit bouquin, de ce qu'on appelle la collapsologie, hein, c'est-à-dire des formes de mi-science dure, mi-fiction, etc., dont il y a des versions plus ou moins fréquentables, hein, plus ou moins honorables, mais qui, bon, moi, aussi bien comme philosophe des sciences, comme philosophe, hein, que je trouve extrêmement faible, sur lequel je voulais aussi un peu en quelque sorte surenchérir, montrer un petit peu comment ça s'était construit. Voilà. Alors l'origine du texte maintenant, parce que vous connaissez son statut, c'est une conférence que j'ai faite à Kyoto dans le cadre d'un grand colloque international qui avait été réuni à l'époque sur le thème des catastrophes lentes, hein, c'est-à-dire des processus extrêmement lents de développement, des choses où on ne peut pas assigner la cause de la catastrophe à un événement dont data ponctuel, par exemple une explosion nucléaire, une guerre nucléaire, mais qui sont des choses qui prennent éventuellement beaucoup de temps à s'inscrire dans le temps. Et à cette conférence, par exemple, il y avait des gens qui parlaient de la corruption, qui parlaient de l'effondrement des institutions qui maintiennent la confiance dans les sociétés démocratiques, où à aucun moment on peut dire qu'on a franchi un seuil particulier qui déclenche un effondrement systématique. Et notamment, il y avait des Chinois, puisque la question de la corruption est une question qui se pose dans l'histoire chinoise de façon assez particulière, hein, c'est-à-dire les effondrements sociaux majeurs avec destruction de la société, millions de morts, famine, etc., sont toujours précédés dans l'histoire chinoise d'épisodes de corruption généralisée. Donc, pour le Parti communiste chinois à l'époque, là, on parle des années 2015-2016, au moment où j'ai commencé à rédiger ce travail, la multiplication des affaires de corruption n'est pas simplement une affaire de régulation interne du fonctionnement de l'État, c'est une angoisse sociale extrêmement forte parce que dans l'histoire chinoise, c'est imprimé dans la tête des gens, tout effondrement de la Chine est précédé de corruption généralisée. Et à cette occasion-là, d'ailleurs, mon texte, une version préliminaire de mon texte a été traduit en chinois et diffusé. Les étudiants, les Chinois qui étaient là, après m'avoir entendu, m'ont demandé le texte. Ils l'ont traduit en chinois. Mon chinois n'est pas du tout assez bon pour vérifier la nature de la traduction, mais ça a été mis en ligne. Et ça a été, à l'époque, incroyablement diffusé. Enfin, comme les Chinois diffusent, c'est qu'en fait, si vous êtes sur l'Internet chinois, n'est-ce pas, c'est complètement banal que des dizaines, des centaines de milliers de gens vous lisent, puisqu'ils sont très, 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 très nombreux. J'ai aucune idée, d'ailleurs, des conséquences ou des suites de ce texte. Donc voilà en gros le statut du texte, et bon, la dimension performative, on en parlera après.
Mais j'aimerais continuer sur la dimension du texte pour bien faire comprendre. Vous écrivez « Tester ». Avec les moyens du mythe, les limites du raisonnable et du rationnel, et vous ajoutez, voilà pourquoi ce bref essai ne tient pas un propos sur l'Apocalypse, mais un propos d'Apocalypse. Oui. Et c'est ainsi qu'il faut bien lire votre texte. Vous avez employé le terme de canular, mais c'est tester avec les moyens du mythe, les limites du raisonnable ou du rationnel.
Alors, en philosophie, c'est un geste qui est extrêmement classique, hein. Même s'il n'est pas très très courant, hein. En fait, les grandes figures auxquelles on pense, c'est Platon, hein, bien sûr, et puis à l'époque moderne, les grands penseurs de l'utopie, et même d'une certaine façon aussi Freud, hein, qui ne recule pas devant l'idée que là où on ne sait pas, on peut toujours s'appuyer sur les ressources du mythe pour créer au moins l'espace, non pas de l'intelligibilité, mais de la possibilité d'une intelligibilité future. Et puis aussi parce que le mythe ou l'utopie ou la dystopie sont dans les réflexions qui portent sur la philosophie politique, sont des manières d'acter les limites de ce qu'on peut dire et soutenir raisonnablement, tout en explorant un champ de possibles qui sont rationnellement indécidables. Ça, c'est un procédé extrêmement, extrêmement ancien. D'ailleurs, dans le livre, je fais une petite note sur cette chose-là. C'est-à-dire que bien souvent, les grands textes du XVIIIe siècle sur la liberté, etc., ou chez Rousseau, renvoient à cet esprit de l'utopie dans lequel on a, depuis le XVIe siècle, ce qui n'est pas encore pensable, mais ce qui s'annonce, prend la forme d'une cité d'or, d'une cité à venir, chez Thomas More, chez Campanella, etc. Et donc c'est un peu dans cet esprit, hein, c'est-à-dire c'est un canular et en même temps c'est un texte qui joue sur ce registre-là, ce qui m'a paru paradoxalement plus sobre et plus prudent dans le genre rions un peu et amusons-nous, même si c'est un humour un peu noir, que la prétention à établir tout de suite, vous voyez, au sens de la collapsologie, un horizon de réalisation scientifique par prolongement des courbes et anticipation de ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas, évidemment, hein, ce qui va se passer. Donc la dimension performative, elle est effectivement liée au fait que si on fait ça, dans ce cas-là, alors on ne peut plus parler l'apocalypse, il faut s'essayer un langage de type apocalyptique, et ça, c'est évidemment pas possible sans que ce soit un peu évidemment canularesque. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles dans le monde entre guillemets savant, un texte de genre n'a évidemment pas sa place, a été mal reçu, et même la démarche dans la complexité là que j'essaie de vous expliquer a paru complètement étrange, bizarre et pas du tout dans l'esprit des temps. Voilà.
Alors vous commencez votre livre, Pierre-Henri Castel, en convoquant trois penseurs qui sont, eux, efforcés d'envisager notre avenir dans la perspective d'une guerre atomique et d'un hiver nucléaire. C'est Karl Jaspers, Günther Anders et Hans Jonas, donc trois philosophes après la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui vous fait écrire, nous n'avons pas juste changé de métaphore en passant de l'hiver nucléaire au réchauffement global, nous avons changé de paradigme.
Oui, alors de paradigme, parce que c'était dans le cadre de cette conférence-là à Kyoto sur les catastrophes au processus lent, de quand dater le début de ce qui entraîne le monde civilisé moderne dans la direction d'une catastrophe, n'est-ce pas ? De l'enfouissement des engrais phosphorés dans le sol qu'on va pas sortir, hein, et qui de toute façon exerceront du dégagement des gaz carboniques depuis qu'on brûle du charbon. Depuis quand en réalité les choses vont commencer? Ils ont commencé avec la modernité industrielle, dont on peut se battre pour savoir quand est-ce qu'elle a été datée, et on l'a datée. Et puis donc voilà, c'est un autre paradigme, parce que c'est comme si la bombe atomique en réalité avait déjà explosé, qu'on peut de façon très obscure en fixer les responsables ou punir les responsables, et qu'on peut pas en effacer de toute façon les effets. Donc c'est pas un paradigme de prévention de la guerre nucléaire autant qu'on peut avec des revendications pacifistes. C'est l'économie tout à fait réelle de la gestion d'une lente dérive vers une catastrophe qui, à certains égards, peut passer comme inéluctable, et dont on voit bien d'ailleurs, hein, avec la fameuse question des 1,5 degrés et dont on sait, on savait, et dont on ne fait que s'apercevoir chaque jour davantage, que non seulement ce ne sera pas 1,5 degré, mais ce sera beaucoup plus, et beaucoup plus vite, et avec des effets beaucoup plus graves, sans que fondamentalement ça change grand-chose à la conduite ordinaire de l'existence, la conduite de la vie des sociétés contemporaines. Voilà, donc c'est ça, hein, la différence, c'est qu'on ne sait pas vraiment penser ces choses-là, et puis bon, on parlera tout à l'heure de Dupuis, mais c'était aussi évidemment une contestation du paradigme dominant de la pensée de la catastrophe, qui est le plus profond à ma connaissance, hein, le plus intéressant, le plus puissant intellectuellement qui a été élaboré, qui est celui de Dupuis. Il n'y a pas simplement ces Allemands.
Est-ce que vous voulez en parler maintenant, de Jean-Pierre Dupuis ?
Alors, oui, alors je c'est pas une discussion d'ailleurs méthodique des arguments de Dupuis, mais c'est une autre manière de construire la question de la temporalité de la catastrophe, et puis surtout, c'est une autre manière d'appréhender la question de l'angoisse et du sursaut, de l'angoisse, de la certitude et du sursaut. C'est l'idée selon laquelle je ne crois pas du tout qu'il puisse y avoir en fait un pouvoir moteur de l'anxiété pour déclencher un sursaut collectif. D'abord, même chez les individus, la question de l'angoisse et du sursaut qu'elle cause est déjà très très problématique, mais quand on parle d'angoisse collective, ça l'est encore plus. Je ne vois pas du tout pourquoi l'angoisse collective devrait aboutir à des sortes de des phénomènes de prise de conscience ou des choses de ce genre. Et que, donc ça c'est un des premiers éléments qui me met en porte-à-faux avec l'analyse de Dupuis. Et d'autre part, c'était une autre façon de considérer la temporalité. Alors il y a une théorie du temps très profonde hein, chez Dupuis, sur laquelle je vais pas insister, de toute façon il n'en est pas question vraiment dans le livre. Ce que je proposais, c'était qu'il y a peut-être une façon beaucoup plus directe et paradoxale d'appréhender les choses, c'est que plus on avance dans le temps, plus la certitude de la fin et de l'imminence de la fin et de l'aggravation permanente augmente, et que plus la certitude de l'imminence de la fin arrive, plus on passe des temps de la fin à la fin des temps, hein, c'est d'un vécu des temps de la fin à l'arrivée de la fin de la fin des temps, plus la possibilité augmente que les représentations que les gens se font, les gouvernements, les opinions publiques, etc., précipitent et accélèrent hein, le désastre, tout simplement pour préserver les avantages ou les privilèges d'une partie de la population ou du monde sur les autres. Et ceci avec une conscience d'autant plus cynique que la certitude de la fin augmente. Que déjà, ben, ça va être le Nord contre le Sud, et puis ça va être à l'intérieur des pays les plus développés, puis les classes sociales, puis les élites, etc. Un peu dans une perspective comme celle que la science-fiction a développée depuis extrêmement longtemps. Hein. L'idée qu'au fond, c'est une petite minorité qui va survivre au détriment d'une majorité qui sera... juste condamné à mort de façon cynique pour juste permettre aux derniers de vivre juste un tout petit peu plus longtemps. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce paradoxe temporel qui était, et la combinaison des deux me semblait être une alternative raisonnable ou une objection raisonnable à opposer à Jean-Pierre Dupuis. Alors Jean-Pierre Dupuis était censé écrire un compte-rendu de ce... pour esprit de mon livre, et il ne l'a jamais donné.
Alors, j'aimerais continuer sur les apports de la connaissance de la psychologie humaine du XXe siècle, principalement du XIXe et du XXe siècle, et vous êtes aussi outillé par cette expertise que vous avez, ce qui vous permet d'écrire « Je fais l'hypothèse plus générale que ce sentiment de l'imminence historique de la fin des temps et l'idée du mal qui pourrait se déchaîner dans les temps de la fin ne peuvent vraiment se déployer que dans des sociétés hantées par le sentiment de leur responsabilité illimitée. Et vous ajoutez, ce sont aussi des sociétés où l'autonomie et la responsabilité sont les conditions ordinaires des individus, leur horizon moral ultime.
Oui, alors c'est lié à toutes sortes de travaux que j'ai faits sur les transformations des sociétés individualistes et sur la question de ce que Norbert Elias appelle la décivilisation, hein, c'est-à-dire les moments. Alors pour Norbert Elias, c'était essentiellement marqué par la question du nazisme, hein, c'est-à-dire comment des sociétés extrêmement intégrées, structurées, développées, etc., peuvent connaître des moments de barbarie qui utilisent tous les moyens de la science et de la technique pour se mettre au service d'une destructivité absolument gigantesque. Un des propos assez glaçants, en fait, que tient, mais extrêmement intéressant, parce qu'il est la ressource, une ressource de politisation remarquable, c'est que pour Norbert Elias, les possibilités de décivilisation hein, sont complètement articulées au processus de civilisation lui-même. Non pas parce que la décivilisation, c'est aller de manière régressive dans le sens contraire de la civilisation, mais c'est parce que l'intégration des sociétés modernes, le propre de l'intégration, de la différenciation, de la solidarité, de la hiérarchie croissante des sociétés modernes fait que plus elles sont intégrées, plus l'effondrement interne dont elles sont susceptibles de connaître est grave. Et un des horizons de réflexion que couvre la pensée d'Elias, c'est que si le nazisme, par exemple, dans les années 30, est arrivé au pouvoir, c'est dans des sociétés qui sont moins intégrées par la division du travail, par exemple, hein, des choses que les sociétés contemporaines. Et on voit déjà le type de désastre que peut produire la désintégration d'une société un peu moins intégrée, bien que très intégrée, la société allemande et autrichienne de l'époque. Et donc, oui, dans des sociétés comme les nôtres, ils sont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intégrées que la société des années 30, les phénomènes de décivilisation prendraient évidemment des proportions infiniment plus catastrophiques.
C'était Pierre-Henri Castel pour Le Mal qui vient et ses hâtifs sur la fin des temps, tout cela, pour nous parler de la catastrophe bioclimatique, mais avec cette idée du mal, et notamment la conception sadienne du mal. Nous allons continuer sur cette catastrophe bioclimatique avec une interview croisée avec Bertrand Meust et Pierre Lagrange, et nous aborderons avec eux les phénomènes étranges étudiés par les anthropologues, et notamment celui des soucoupes volantes, et ça serait donc l'idée de relier la question, le sujet, la figure de l'extraterrestre et celle, bien entendu, qui nous occupe actuellement du terrestre. Karl, qu'allons-nous écouter ?
Eh bien, un extrait du EP, je crois, au mini-album de Taxi Kebab, les Français, qui est sorti il y a... Je ne vois plus rien, c'est une horreur, il y a 2 ans. J'étais plus sûr. Voilà, on va écouter juste le morceau « Wanna ». Là aussi, ça se place pas mal dans l'actualité.
Très bien. Et tout ça, c'est l'émission du Fictionnaire.
Merci Pierre de nous recevoir chez toi. L'idée de cet entretien, c'est de pouvoir vous faire parler tous les deux, puisque vous êtes les deux grands spécialistes français à la fois du phénomène des soucoupes volantes et à la fois des phénomènes parascientifiques, paranormaux, des phénomènes notamment de médium, de magnétisme. Et donc c'était un peu de avoir cette occasion ensemble de croiser ces différents phénomènes. Et ma première question pourrait être celle-ci, qui concerne le phénomène des soucoupes volantes. Où est-ce qu'on en est? Vous en avez fait tous les deux dresser l'historique. Vous avez, à ma connaissance, vous êtes les deux grands spécialistes. Et actuellement, là, on en est où du phénomène des soucoupes volantes? Pierre, si tu veux commencer.
Alors, où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire que les soucoupes volantes, c'est un peu un éternel recommencement. On a un débat donc, qui a redémarré en 2016-2017 à cause aux États-Unis, à cause de révélations de, notamment liées à des observations qui ont été faites dans le cadre de la Navy. Et donc l'actualité du sujet du point de vue médiatique, du point de vue public, c'est ça, c'est le ces observations de la Navy qui ont généré un changement de ton dans la manière de parler du sujet. C'est-à-dire que jusque-là, en gros, ça avait commencé à évoluer un peu, mais jusque-là, en gros, le débat public sur les ovnis, c'était pourquoi des gens croient voir des choses qui n'existent pas. Depuis 2017, aux États-Unis notamment, le ton a changé, c'est-à-dire que les autorités se sont mises à parler du sujet avec plus de respect. Et ça, c'est assez curieux en soi, il y a une espèce d'évolution comme ça de la parole publique. En France, en Europe, je dirais, ça, c'est resté à peu près ce que c'était, ce qui fait que d'ailleurs les médias français ont été surpris de voir la manière dont aux États-Unis le sujet était pris au sérieux tout d'un coup. Et, mais le débat qui a été généré autour des ovnis à partir de 2017, c'est un débat qui en fait ressemble au débat des années 50. C'est-à-dire qu'on est à nouveau sur des pilotes militaires ont vu des objets, on vole sur ou sous l'eau, et on est sur la question, c'est d'où viennent ces engins. C'est-à-dire qu'on est dans, on est dans Donald Keough. C'est-à-dire Donald Keough, c'était un militaire journaliste des années 50 qui a lancé le grand débat sur, à partir de 1950 sur les soucoupes volantes comme objets matériels venus d'une autre planète. Or, ce qui est intéressant, notamment avec Bertrand, c'est que le débat dans les fin des années 60, les années 70, 80, avait changé de ton, notamment en Europe. Et là, on revient sur un débat qui est celui que, qui est l'âge d'or des soucoupes volantes des années 50. Et c'est ça qui est curieux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une espèce de ton plus sérieux sur ces objets, on ne parle plus d'hallucinations ou autre, et en même temps, on est revenu sur un cadre qui est un vieux cadre dont on ne sait pas, enfin, qui dans les années 50-60 n'avait pas permis justement d'aller très très loin. Donc Bertrand a peut-être un autre...
Alors bon, déjà je voudrais un peu tempérer vos éloges initiaux. Moi, le grand spécialiste des ovnis, c'est surtout Pierre. Moi, je m'y suis beaucoup intéressé dans ma jeunesse. J'ai commencé par ça, je dois dire. Ça m'a mis sur la lancée d'un certain nombre de thèmes. Mais je suis toujours le problème, hein, notamment à travers Pierre et d'autres amis. Et il continue de me fasciner. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi cette effervescence actuelle? Bon, ce qu'a dit Pierre, c'est évident. Je vais ajouter un point qui me paraît très important, qui a modifié notre perception de la question. Moi, j'ai connu l'époque, quand on s'intéressait aux ovnis, on était des gens qui avions pris le maquis, en quelque sorte. On était dans un monde à part, avec des réseaux secrets, des relations, des faits que personne ne connaissait, etc. Ça avait un côté très exaltant, d'ailleurs. Et en même temps, un peu frustrant. Mais bref, on était isolés de la perception commune. Aujourd'hui, il y a un phénomène fondamental, ça s'appelle le smartphone. N'importe quelle personne sur la planète, qu'elle soit préparée ou pas, etc., tous les hommes maintenant sont mis au même, les hommes et femmes évidemment, sont mis au même niveau. Et donc ce flux d'informations colossales qui irrigue les, qui nous traverse, c'est ça à mon avis qui explique en grande partie le retour aux ovnis. On ne peut pas résister à ce flot d'informations. Toutes les informations qu'on savait, nous, Et que quand on les divulguait comme ça, on en parlait dans des conférences, il y a des gens qui disaient, vous rêvez, c'est vrai ce que vous dites, ces histoires? Et là, d'un seul coup, voilà, ça arrive avec l'autorité de la NASA, et puis avec une force visuelle. C'est ça le truc. Pourquoi c'est, on retrouve vers le, comme disait Pierre, vers la factualité des années 50, c'est les appareils, c'est la technologie qui nous les impose. On peut voir maintenant les ovnis, sur les informations que nous a révélées la Navy ou la NASA, on peut voir des ovnis faire leurs acrobaties, etc. J'ajouterais un truc, c'est que tout ce qu'on observe maintenant, je suis désolé de le dire, mais nous on le sait depuis 1950, c'est exactement les péripéties qu'on voit, les ovnis qui font leurs évolutions fantastiques, etc. C'est ce qu'on nous a montré. Donc évidemment, ça a un effet de choc et d'évidence sur les gens qui est très grand.
C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas un effet de nouveauté dans les preuves qu'apportent les révélations de la Navy? Il n'y a pas une nouveauté qui apparaît là pour le phénomène des soucoupes volantes?
Non, en gros, on est sur les mêmes types de témoignages. Les mêmes, alors, il y a une évolution de la technologie, mais honnêtement, quand on voit les films de la Navy, ils sont cradingues. On voit, c'est des trucs infrarouges, on voit très peu de détails, on voit une espèce de tache, on ne sait même pas quelle est la forme réelle de l'objet. Donc, tout le monde croit voir des ovnis, mais si on analyse un tout petit peu ce qu'on voit sur ces images, on voit rien en fait. Si on n'est pas hyper spécialisé sur l'analyse de toutes les données qu'il y a autour, on ne peut rien dire. Donc, c'est un vieux problème. Ce qui me semble quand même, il y a un aspect, alors évidemment les réseaux sociaux, tout ça, a changé la nature du débat public et font que ces sujets sont devenus un sujet qui, comment dire, à travers les débats sur le complotisme, a contribué à restructurer une partie de la parole publique, du débat public. Mais il y a quand même cette espèce d'attitude où, donc depuis la fin des années 2010, on a Obama ou d'autres ex-présidents qui sont interrogés et qui se mettent plus à plaisanter, comme c'était le cas dans les années 50-60. Enfin, ils n'en plaisantaient pas forcément, mais en gros, ils tenaient le sujet à distance. Ils disaient, oui, on demandera à la NASA, ou on demandera au Pentagone s'ils ont quelque chose, mais ils ne s'avançaient pas. Et là, il y a un discours plus feutré, plus calme, et c'est là où il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que au fil des décennies, cette marginalité soucoupique, en fait, est rentrée jusqu'au sommet de la Maison-Blanche. C'est-à-dire qu'on a des gens, notamment John Podesta, qui a été le conseiller de plusieurs présidents, de Bill Clinton, de Obama, le chef de campagne d'Hillary Clinton. C'est un passionné de soucoupes volantes. C'est-à-dire un passionné de soucoupes volantes, tolé boulon. Et en gros, lui et quelques autres ont contaminé, entre guillemets, parce que, en gros, ce sont des lanceurs d'alerte, on va dire. Et ils ont fait circuler ces sujets dans des endroits où ils circulaient autrement. Où ils circulaient sous forme de « Ah, il y a encore un article de Life sur les soucoupes volantes, qu'est-ce qu'on va leur répondre ?» ou des trucs de ce genre. Et là, John Podesta n'a pas arrêté de dire qu'il s'intéressait au sujet, il pense qu'il y a quelque chose qui existe. Et son obsession, c'était de trouver dans les archives, alors que le type occupe le sommet de la hiérarchie politique américaine, il se dit, on nous cache des choses. C'est là où il y a quelque chose de bizarre, c'est-à-dire que avant, c'était des ufologues qui étaient dans le maquis, qui, pour certains d'entre eux, disaient, l'armée nous cache des données, un truc comme ça. Bon. Et là, on a un type qui est au sommet de la hiérarchie de la Maison-Blanche qui dit « Il y a une officine quelque part qui nous cache quelque chose.
Ouais, »
C'est-à-dire que le grand complot est arrivé chez eux, quoi.
Oui, c'est parfois comique parce qu'on a parfois l'impression que l'US Navy enquête pour savoir si ce ne serait pas l'Air Force ou le contraire. C'est-à-dire ils disent même que les faits qu'ils présentent ont résisté à leurs enquêtes, y compris celles qu'ils ont faites sur eux-mêmes.
Oui.
C'est-à-dire, ça suppose qu'il y a toujours à l'intérieur des États-Unis des zones noires, obscures sur ces questions qui peuvent alimenter évidemment les spéculations, à tort ou à raison, hein, mais c'est comme ça. Alors il y a quelque chose de très bizarre là-dedans, vraiment. Ils s'interrogent eux-mêmes sur puisque en fait, ils sont il faut bien comprendre aussi la mentalité des Américains. Quand on va, quand j'ai commencé à m'intéresser aux enlèvements, donc là, début des années 80, quand on va à un colloque aux États-Unis ou qu'on discute avec des chercheurs, ils ne se posent jamais la question, mais pourquoi nous, les Américains? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas autant d'ovnis chez les Gabonais ou, bon. Non, non, ils ne se posent pas la question. Pour eux, ça va de soi. Ils sont le centre du monde. Et si les extraterrestres s'intéressent aux humains, c'est à eux qu'ils s'intéressent, évidemment. Ils ne se posent pas la question. Ils étaient vraiment très étonnés quand je leur disais, bah, écoutez, il faut que je vous dise un truc, ces abductions dont vous ne cessez de parler, qui sont véritables vagues chez vous, bah, chez nous, on en a aussi, mais très peu. Ah, vraiment? Tomber des nues. Et ils ne voyaient pas les implications que ça pouvait avoir sur la nature de ces phénomènes. Bon, c'est très curieux. Alors, pour revenir sur ce que disait Pierre, moi j'ai l'impression qu'à l'intérieur de l'énigme des ovnis, il y a une énigme, c'est l'énigme américaine.
Et qui serait quoi cette énigme? Ça serait les conceptions modernes qui trouveraient aux États-Unis, chez le peuple américain, peut-être oui. son point d'ancrage le plus, on va dire, abouti ou évolué, c'est ce type de conception qui est le plus à même de voir ce type de phénomène et de les identifier comme étant d'origine extraterrestre.
Oui, je pense que pour les Américains, l'OVNI, c'est pas comme pour nous Français, surtout à l'époque où on commençait nos recherches et même encore maintenant, ça n'est pas quelque chose qui est aux extrêmes franges du réel. Non, non, c'est pour beaucoup d'Américains, c'est le réel. On discute, moi je suis allé dans un congrès dans le Wyoming sur les enlèvements, et on me disait, tiens, tel, là, il a été enlevé. Ouais, bon, je vais aller voir le type avec mon micro. Ah, le type, ouais, I was abducted by a UFO. Il disait ça comme si c'était un phénomène tout à fait normal, courant, qui faisait partie de leur réalité.
Oui, mais c'est parce qu'ils ont construit des réseaux.
Oui.
Notamment Sprinkle, là, voilà, dans Sprinkle, le Wyoming. Voilà. C'est un psychologue de l'université du Wyoming. Et il y a eu, en fait, à partir des années 50, il y a des groupes qui se créent, alors en France aussi, hein, en Angleterre aussi. Mais aux États-Unis, le phénomène va franchir des seuils. C'est-à-dire qu'au milieu des années 60, il commence à y avoir le récit de Betty Barney Hill qui raconte avoir été enlevée. Tout ça. Et donc, ces cas vont se multiplier. Et dans les années 70, il y a une vague de ces affaires. Et à partir de 1987, il y a une nouvelle vague liée au succès d'un livre de Whitley Strieber, qui est un romancier à succès américain, un roman fantastique, et qui dit « J'ai subi un enlèvement ». Et là, ça devient une espèce d'explosion hallucinante. Et donc, ces réseaux se consolident, parce que Bud Hopkins et d'autres ufologues, Sprinkle, tout ça, avaient commencé à constituer des réseaux et à réunir ces gens qui, auparavant, étaient isolés, et donc qui subissaient une espèce de marginalité, de marginalisation, quand même, comme on avait en Europe. Mais ils se sont constitués en réseau où ils ont pu parler entre eux. C'est comme les alcooliques anonymes, tu vois. Ils partagent. Et du coup, ça a créé une espèce de sociétés parallèles où ça a été accepté, où ça a pu circuler mieux.
Et quand tu parles d'une vague en 1987, c'est quoi? C'est soudainement, on constate qu'aux États-Unis, il y a véritablement un grand nombre de cas d'enlèvement qui là, arrivent.
C'était bien avant. Oui. Là, la vague des enlèvements, il y a eu plusieurs étapes dans les enlèvements. Il y a eu une époque où c'était très mystérieux et refoulé par les Américains eux-mêmes. Et puis, il y a eu ensuite une phase, avant Bud Hopkins, hein, où il y avait déjà, à mon avis, un dossier de plusieurs centaines de cas, mais très étrange et très solide, parce qu'à l'époque, l'information n'avait pas circulé, ou peu, étant donné que les enquêteurs n'osaient pas publier les cas. Donc, on a quand même vu monter et s'amplifier le signal. Rétrospectivement, on voit qu'il y avait déjà un signal important dans la société américaine. Et alors après, ça a été Missing Time de Bud Hopkins, puisque à ce moment-là, alors on est en 82, je crois à peu près.
Je crois qu'il est publié en 80, en 81, mais voilà. Là, c'est le creux de la vague, en fait, on ne s'intéresse plus aux ovnis.
Voilà. Mais le Missing Time, c'est un syndrome où quelqu'un, par exemple, circule en voiture dans la nature, et se retrouve 2 heures plus tard dans un endroit où la personne ne voulait pas aller, et éventuellement découvre des marques sur son corps.
Ça, c'est le cas typique de BTI.
Voilà.
Et de Barney.
Non, parce que dans le cas de... Non, parce que dans le cas de... Il y a un ovni au début. Tandis que là, le missing time, le concept, c'est que le souvenir même de l'ovni n'est pas gardé, mais il y a tout un ensemble de phénomènes, comme par exemple les marques sur le corps, qui invitent à rapporter ça au concept de l'enlèvement. Et alors, à partir du moment où on a effacé le stimulus objectif du départ, on n'a plus besoin de l'ovni pour faire avoir un enlèvement. Et à partir du moment où on a un recours massif à l'hypnose, parce qu'il faut dire aussi que l'hypnose s'est vulgarisée, mais au départ, elle n'était pas utilisée couramment. Alors, à ce moment-là, ça explose. Et ça devient une vague, mais absolument colossale.
Ça, il y a eu certainement... Une vague colossale, ça veut dire combien de cas?
Des dizaines de milliers, certainement plus.
Je ne sais pas.
Oui, à mon avis.
Et puis les gens n'ont même plus besoin de sortir de chez eux pour être enlevés. Après, les extraterrestres, entre guillemets, viennent les enlever dans leur chambre.
Oui, les bedroom visitors. Voilà.
Donc, c'est-à-dire qu'au début, il y a des incidents routiers avec une observation d'OVNI, un missing time, c'est Béthier Barney Hill. Après, il y a des missing time. Et puis après, on est dans son lit et puis il y a un missing time où il se passe quelque chose ou des cauchemars récurrents. Et là, ça se multiplie, les récits sous hypnose.
Et ça serait typiquement américain?
Alors, c'est quand même très américain, parce qu'il me semble que c'est né aux États-Unis. L'affaire Villas-Boas, qui est sud-américaine, elle est révélée un peu à la même époque, mais c'est l'affaire Betty qui explose. L'affaire Villas-Boas, elle va circuler dans les réseaux du Follog. Donc, ça n'a pas la même ampleur. Alors, après, il y a des cas sud-américains, mais il y a une culture sud-américaine, là aussi particulière. Je ne sais pas si Bertrand...
Oui, bien sûr. Alors, en fait, les Américains, en fait, on trouve un peu les mêmes cas un peu partout, en réalité, mais ils sont rares. Il n'y a pas, comme disait Pierre, cette espèce de réseau qui va permettre à cette information de circuler et d'exploser. Et puis, cette réalité américaine qui fait que ces phénomènes sont pour eux... Par exemple, il y a eu des études qui ont été faites par des psychiatres français sur les abductis, les gens qui ont été enlevés. Et, ou du moins, non. J'exprime mal la chose. Il y a eu des études faites aux États-Unis par les psychiatres américains, des psychiatres, sur les abductises, et il y a eu à un moment un ensemble convergent pour dire ces gens-là n'ont rien de particulier, ils n'ont pas de profil pathologique particulier, ce sont des Américains comme les autres. Voilà, alors à moins de conclure que tous les Américains sont fous, n'est-ce pas? Et donc, quand on dit ça à des psychiatres français qui ont lu Lacan, Heidegger, etc., c'est l'horreur suprême pour eux. C'est un signe de... Donc, si c'était des Français qui avaient fait des études, on aurait probablement trouvé des diagnostics plus embarrassants. Donc, conclusion, même la psychiatrie en ce domaine, elle fait que refléter la perception de réel d'un groupe.
J'ai cru comprendre que...
T'es d'accord, Pierre, parce que...
Oui, moi, j'ai pas étudié le phénomène des enlèvements autant que toi, donc... Mais c'est clair qu'entre le... Il y a une culture américaine qui s'est construite autour de ces phénomènes. Alors, il y a aussi des débats violents aux États-Unis entre des psychologues refusent, qui parlent de syndrome de fausse mémoire, Elisabeth Loftus et d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a tout un réseau, qui est curieux quand on le regarde ici, parce que des gens comme David Jacobs ou Bud Hopkins... qui prennent ça, je veux dire, c'est les Henri Boguet, les Jean Baudin de notre époque, c'est-à-dire qu'ils prennent ça au premier degré.
Ce sont des inquisiteurs à la façon des inquisiteurs du XVIe siècle.
Donc, ils ont, moi je me souviens d'une discussion avec Bud Hopkins, il a vraiment cette vision totalement au premier degré, et quand on fait le lien avec justement des débats comme la sorcellerie au XVIe siècle, des choses comme ça, ça ne leur parle pas du tout. Ou alors ils viennent dire, oui, mais c'était l'histoire d'OVNI camouflée en affaire de sorcellerie.
Et alors, si on revient sur notre terrain français avec, par exemple, l'ethnopsychiatrie telle que théorisée par Toby Nathan, où là, est-ce qu'il y a eu, par l'ethnopsychiatrie, des cas rapportés ainsi à votre connaissance à tous les deux? Parce que peut-être qu'on pourrait imaginer que l'ethnopsychiatrie était une manière d'accueillir avec bienveillance le discours de ce type de possibilité de rencontre ufologique.
Autant que je me souvienne de ce que disait Latour quand il participait au séminaire de Toby Nathan, dans les, alors d'abord, Toby Nathan, il étudie des situations où ce sont des personnes qui viennent notamment majoritairement d'Afrique, qui ont des problèmes psychologiques, on va dire, ou psychiatriques en France, et qu'ils expliquent par leur culture d'origine.
Donc, ils ont ramené leur culture avec
voilà, l'idée de prendre au sérieux la culture d'origine pour construire une thérapie sur ces phénomènes et pas leur calquer nos modèles à nous. Et donc, dans ces cas, il y a des. Alors, il y a les djennoun, il y a toutes les créatures traditionnelles, mais il y a des histoires d'extraterrestres qui émergent. Mais il faudrait interroger Toby Nathan pour voir est-ce que c'est fréquent, comment ça se construit. Là, il n'y a pas de. Et je ne suis pas sûr qu'il ait publié spécifiquement sur cet aspect-là.
Bon, moi, je connais Toby Nathan, j'ai fréquenté son groupe, c'est l'équipe des empêcheurs de penser en long, etc. Et bon, je sais bien dans quel registre il s'exprime. C'est un type extrêmement pointu, hein, il faut le dire, extrêmement, extrêmement futé. Mais je pense que sur cette question-là, il subsiste quand même une gêne. Il s'est surtout attaché effectivement à étudier, par exemple, des Africains qui ont ramené avec eux leurs croyances et chez qui elles prennent une ampleur à cause de la situation dans laquelle ils vivent en France.
Eh bien, bien entendu, pour écouter la suite de ce long entretien entre Bertrand Meheust et Pierre Lagrange, vous savez que dès demain, ça sera sur l'émission du Fictionnaire, très facilement trouvable, ainsi que la suite de l'interview de Pierre-Henri Castel. C'était donc une manière d'aborder de façon détournée, de façon étrange, la question de la catastrophe bioclimatique, qui est le grand oubli, on va dire, du mois de juin en France. Karl, bien entendu, le morceau est de circonstance.
Je pensais surtout en fait que t'allais jamais finir sur le service public pour plusieurs raisons, mais pas en mâchant quoi. Ça ne se fait pas. On respecte l'auditeur, voyons.
Ouais, il me reste un bout dans la. Parce que en fait, on est une émission aussi, mais ça ne se sait pas, mais gastronomique.
Enfin, pas trop ce soir. Moi.
Non, là, ce soir, non, c'était pas gastronomique, mais. C'est une émission, en même temps, elle est de 19h à 20h, quoi.
Eh oui, on a
c'est
faim,
l'heure quoi. Du repas. Voilà.
Bon, excusez-nous. C'est la dernière. Il faut aussi souhaiter de bonnes vacances.
Ah oui, alors c'est la dernière des vacances. Enfin, il y a juste le mois d'août qui saute, quoi. Ah, bien entendu, oui, on se retrouve en septembre.
Pour une rentrée littéraire.
Mais exactement. En plus, ça sera les 20 ans de l'émission. Alors, vous voyez.
Ah oui.
Mais oui, tu sais, Karl, on a prévu encore à 80 ans de venir avec des cannes et des déambulateurs jusqu'au studio. Alors là, bon, c'est vrai que on monte par des escaliers. À un moment donné, il va falloir que le monte-charge soit rétabli quand même pour qu'on puisse encore continuer à faire de la radio sur nos vieux jours.
Il y a quelque chose
Oh bah oui, sans doute qu'on amènera un pâté spécial, quoi.
Ah oui, d'accord. Je pensais à Beyoncé ou non.
Ouais, en photo, en poster.
En poster. Mmh. Je passerai du Beyoncé. Allez, on finit avec Zenobia. Les Palestiniens, sortis sur le label d'Acid Arab, Acid Arab Records, et ils en sont là, bravo. Et bah, l'album, c'est Alak Alak, et bah, c'est pareil pour le titre.
Bravo, tout ça. C'est l'émission du Fictionnaire, Radio Campus Orléans, bon été à vous, et on se retrouve en septembre. Yo, juste après, t'en veux, c'est de la bonne, Jean-Marc, au rendez-vous.